Avant la guerre, Mademoiselle Beboiton, qui était la dernière qui m'ait formée pour l'année du certificat d'études, elle dit à maman, écoutez, il n'y a pas 36 trucs, hein, mais il va falloir envisager un conservatoire ou quelque chose comme ça. Pour elle, c'est une voie qui s'ouvre. Ben, elle s'est refermée avec l'arrivée des troupes allemandes.
La personne que vous venez d'entendre est Ginette Maillouchaud. Cette dame, aujourd'hui âgée de 97 ans, a grandi à Saint-Nazaire avant de devoir fuir au Pouliguen, où elle deviendra empochée. Un portrait d'elle, tendant un bouquet à un soldat américain à la Libération, est conservé par l'écomusée de Saint-Nazaire. C'est de ce magnifique cliché qu'est partie notre rencontre.
Et nous, c'est Guillaume de Pienne, Salomé Dorge et Tara Zigo, trois étudiants et étudiantes en première année du Master Histoire publique de Nantes Université. Nous avons été invités par le pôle patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour réaliser ce podcast.
Nous avons eu la chance de rencontrer Ginette chez elle à trois reprises. Elle a accepté de nous livrer son témoignage, à la fois touchant et personnel, d'une époque que nous n'avons pas connue. Lors de ces entretiens, Ginette nous a confié son vécu de la guerre à travers son regard d'adolescente.
Est-ce que vous pouvez me dire votre nom et prénom, s'il vous plaît?
Alors donc, Ginette Chouin, d'origine, et Maillouchaud.
Très bien.
Oui.
Et en quelle année êtes-vous née?
En 1928.
Ginette est une femme pétillante, pleine d'énergie et dotée d'un grand sens de l'humour. D'après le récit qu'elle nous a fait de son enfance, elle nous semble avoir toujours été ainsi. Sociable, amusante, souriante et capable de diffuser la bonne humeur autour d'elle. Ses qualités semblent avoir été essentielles pour traverser la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Ginette était passionnée par la musique et le théâtre. Jeune fille, elle rêvait d'ailleurs d'un avenir artistique. La guerre en a décidé autrement. Ce tournant majeur de sa vie, nous allons tenter de vous le raconter avec elle.
J'ai toujours été très à l'aise sur une scène, avec un micro, très à l'aise. C'était que du bonheur d'être sur une scène. Et s'il vous dit que l'on vous aime, écoutez toujours l'amour. Là, l'école Lamartine, il y avait des fins d'année organisées où on jouait dans l'orchestre ou alors où on chantait. Avant la guerre, Mademoiselle Beboiton, qui était la dernière qui m'ait formée pour l'année du certificat d'études, elle dit à maman, écoutez, il n'y a pas 36 trucs, hein, mais il va falloir envisager un conservatoire ou quelque chose comme ça. Pour elle, c'est une voie qui s'ouvre. Ben, elle s'est refermée avec l'arrivée des troupes allemandes.
Sans doute autant que la musique, Ginette nous a beaucoup parlé de sa mère. Cette femme alterne de nombreux métiers, comme femme au foyer ou lingère. Au début de la guerre, elle tient le café Maurice Chouin, du nom de son mari, rue de la Gare à Saint-Nazaire.
J'ai souvenir du café, des Écossais qui venaient boire leur bière là, hein, essayer de parler un petit peu avec maman, et parce qu'elle avait connu à la guerre de 14 les Américains déjà, donc tout ça c'était très approximatif conversation,
oui.
Et langage, oui. Hein. Mais enfin on aimait beaucoup de jeunes en tout cas, je m'en souviens très bien de ce garçon-là. Et malheureusement est arrivée la catastrophe du Lancastria, quoi. Ça que tout le monde connaît. C'est vraiment une chose atroce, hein, de vivre ça et d'attendre de savoir qu'est-ce qui était devenu les hommes-là qu'on avait connus. Le lendemain, tout Saint-Nazaire a été sans dessus dessous, parce que beaucoup avaient rencontré des Écossais et des Anglais. Et tout le monde était affolé en se disant, mon Dieu, ont-ils pu être sauvés, hein. Alors, au fur et à mesure qu'on entendait ce qu'on entendait, on disait que c'est pas possible, ils ont dû tous périr.
Paquebot transatlantique, le Lancastria est transformé en transport de troupes par la Royal Navy. Le 17 juin 1940, à quelques jours de l'armistice entre la France et l'Allemagne, des milliers de soldats britanniques et leurs familles embarquent à bord du navire dans le port de Saint-Nazaire. Ce paquebot permet de les évacuer d'un pays qui s'apprête à tomber aux mains de l'ennemi. Mais peu de temps après avoir pris la mer, le Lancastria est attaqué par des bombardiers allemands. Plusieurs bombes touchent le navire et le coulent au large de Saint-Nazaire. Des milliers de personnes trouvent la mort dans ce naufrage, un événement qui a profondément marqué Ginette, mais aussi toute la ville de Saint-Nazaire. Même si le nombre exact de victimes reste incertain, on estime environ 4500 morts. Aujourd'hui, le naufrage du Lancastria demeure l'une des plus grandes tragédies de l'histoire maritime du XXe siècle. L'armée allemande arrive à Saint-Nazaire quelques jours après la catastrophe.
dans la cour de l'école, alors là, c'était la panique complète. Tout ce qu'ils pouvaient se raconter. Parce que ça me revient. Oui, les Allemands, ils viennent, ils arrachent la langue des gens, ils font ci, ils font ça, ils violent les femmes. Enfin bon, tout un tas de choses qui s'est avéré par la suite d'ailleurs, bon, tout à fait faux. Mais enfin bon, on était déjà complètement paniqués.
Avant la guerre, le père de Ginette travaille comme steward à bord des paquebots de la compagnie transatlantique. Après avoir été mobilisé au début de la guerre, il revient à Saint-Nazaire et se fait embaucher comme boucher dans la base sous-marine.
J'allais bien manger, beaucoup de Français travaillaient parce que il y avait le seul moyen d'avoir un peu d'argent, c'était de travailler avec les Allemands quand même. Un contre-cœur, mais quand même. Ils étaient 4 ou 5. Hein. C'est là où je vous ai expliqué qu'ils avaient des tabliers de cuir qu'ils avaient fabriqués avec une poche à l'intérieur parce que quand ils avaient fait leur découpe de viande ou de charcuterie, ben, à leur risque et péril, ils sortaient dans la poche en cuir ce qu'ils leur faisaient pour amener à la maison. J'ai vu papa arriver un jour avec un beau saucisson qui était long comme ça. Finalement, ça nous arrangeait bien. mais à leur risque et péril, là, parce que j'imagine oui. Que si on avait mis la main dans le tablier pour aller voir ce qui s'y passait, ça n'était pas très bien passé. Combien de fois j'ai entendu papa dire « Eh bien, le gars, quand il va croire mettre son rôti de bœuf à cuir dans le sous-marin, il va se retrouver avec du pot-au-feu. » Et quand il était chez les Français, c'était une façon de résister, tout en se protégeant, mais en prenant des risques aussi. Un jour, le professeur nous a dit « Vite, vite, vite !» Et alors, quitter les lieux et il fallait partir, suivre tout le monde. Bon, alors moi, évidemment, je n'ai pas suivi tout le monde et j'ai embarqué une amie avec moi. Et on est remonté toute seule sur la rue Villers-Martin. Et je lui ai dit, on va aller chez les Capucins, là. Il y avait des moines là-dedans avec leurs capuchons bruns. La seule chose dont je me souviens, alors elle était affolée, elle me dit, tu vois, on aurait dû suivre tout le monde. Elle dit, non, t'inquiète pas. On s'est mis sous une charrette à bras, qui était là, dans la rue, ou à l'entrée de chez les moines, là, justement. Et on a vu passer toutes les avions bombardiers au-dessus de notre tête. Et ça tombait partout, évidemment.
Bien que ces bombardements se soient passés dans son enfance, Ginette a gardé en mémoire le bruit de ses avions.
Quelque chose de très étouffé comme ça, hein, et qui grossit, jusqu'à ce que, paf, ça explose. Mais quand ça commençait à faire broum, 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 il est temps de se carapper et d'aller me mettre dans les abris.
Ce dont Ginette se rappelle aussi, c'est l'opération Chariot. Cette opération commando est menée par l'armée britannique dans la nuit du 27 au 28 mars 1942. Elle avait pour objectif de détruire la forme Écluse Joubert, la seule à pouvoir accueillir le plus grand cuirassé allemand, le Tirpitz. C'est ainsi que les Alliés lancent un destroyer chargé d'explosifs, le Campbelltown, dans la porte d'accès de la forme Écluse afin de la rendre inutilisable. Des commandos descendent aussi sur le port pour détruire d'autres infrastructures portuaires. Les affrontements avec l'occupant sont très violents et des deux côtés, les pertes sont importantes. Une vingtaine de Nazériens perdront aussi la vie.
À ce moment-là, nous habitions dans la rue Villers-Martin. La maison d'à côté, c'était le directeur des chantiers de Pinguet. Et lui avait fait une tranchée dans son jardin avec pour sa fille et tout, pour la protéger. Et il nous avait dit, vous descendez et vous vous mettez à l'abri dans le jardin avec tout, comme ça, on s'est renfouillé dans les maisons, ils n'y trouveront pas, bon. Et puis, la nuit s'est passée, évidemment, avec tir de mitrailleuses, tir de bombes, bombe qui était à droite, à gauche, enfin bon, la terreur dans la tranchée où on était. Et on entendait bien courir dans le jardin, bien sûr, hein. Alors bougez pas.
Et pour vous, personnellement, est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous faisiez à cette période-là?
Ben, j'allais à l'école supérieure, hein, j'ai continué jusqu'à qu'on quitte Saint-Nazaire. J'étais en seconde. Hein, c'est tout. Sauf là, je ne faisais rien. Pendant la guerre, on ne faisait rien. Là, on ne faisait pas du théâtre, on ne faisait rien du tout. Non, on essayait de rentrer chez soi et de se cacher la nuit comme on pouvait, comme ça tombait.
Les bombardements ont été particulièrement dévastateurs à Saint-Nazaire et laisseront après la guerre une ville en ruine. Ils commencent en juin 1940 avec l'armée allemande et continuent pendant l'occupation avec les attaques alliées. Les années 1942 et 1943 sont particulièrement intenses. Ginette et sa famille sont contraints de déménager en pleine nuit.
Parti à cause des bombardements. Le prochain qui s'annonçait était destructeur, hein, complètement. Oui, le dernier qu'il y a eu, là, justement, c'est celui-là qui nous a fait partir. Mais c'était aux environs de Noël, il me semble me souvenir. Un bombardement, bombe normale. Hein. Et puis après, il y a eu le bombardement avec les bombes incendiaires. Et là, ça a été la déflagration partout. On était déjà arrivés, nous.
Donc vous êtes parti au Pouliguen ?
Oui, alors on est parti dans la maison des grands-parents.
Comme la famille de Ginette, tous les Nazériens sont poussés à évacuer leur ville. Ils se réfugient un peu partout aux alentours, souvent chez des proches. Tous doivent se réadapter, reconstruire leur vie quotidienne. Pour la jeune adolescente qui est alors Ginette, il n'y a plus d'école et elle occupe son temps libre à voir ses amis, réfugiés autour du Pouliguen.
Maman, alors donc, elle s'en allait chercher des légumes, elle s'occupait. Et elle n'était pas là tout le temps puisque moi j'étais libre. Et en rentrant, je me souviens qu'elle me dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et là, je dis « Mais je suis allé à la plage. » « Oui, mais avec qui ?» Bah, avec qui ? Avec Jacqueline, une telle, je ne sais pas qui. Et puis les gars. Et la maman, quand je suis rentré, je lui ai dit ça, elle m'a dit « Bon, bah, c'est pas compliqué, la plage c'est fini. Maintenant, tu me dis ce que tu veux, tu veux être couturière ou tu veux être coiffeuse ?» Ça n'avait rien qui me disait. Hein. Elle m'a dit « Tu veux faire du théâtre ?» J'aurais dit « Oui. » On faisait du théâtre, mais du théâtre amateur. Et à tout prendre, j'ai dit « Bon, coiffeuse peut-être quand même, parce que c'est un petit peu plus artistique. Le contact humain aussi avec la clientèle. Enfin, j'en sais rien, j'ai dit coiffeuse. Voilà. Et je suis devenue coiffeuse. Qu'est-ce qu'on voulait là-haut que je sois en réalité ? Les événements terrestres ont changé tout. Peut-être que j'étais destinée quand même à une carrière. D'ailleurs, c'est ce que je dirais en arrivant. Hein. S'ils me demandent ce que je veux faire, si je dois revenir, ben je saurai ce que je veux faire.
Et ce sera
chef d'orchestre.
Et en juin 44, on apprend que les Alliés ont débarqué en Normandie. Est-ce que vous avez un souvenir de ce moment-là ?
Oh, oui, oui, quand même. Maman était aux aguets et on était tous à écouter. Oui, ben, bien entendu. Vous pensez qu'on sentait bien, mais vraiment, c'était une période très haute, très, très dure. Est-ce que ça va réussir ? Est-ce que ça ne va pas réussir ? Mais toujours, moi, amoureuse comme j'étais, tout le reste passait au second plan. C'était quand même mieux d'être amoureux et d'oublier la guerre. Tout le monde était fou de joie, évidemment, à sortir les drapeaux. Et sortir les drapeaux, c'était compliqué, oui. Parce que... Mais enfin, elles sortaient quand même. Tout le monde se projetait dans la libération, nous on attendait que ça. Quand on a vu qu'on restait là, ça a été... Ah, vraiment, comme si on avait mis une cape noire sur la tête. Et j'en dirais ça, mais combien de temps?
À ce moment-là, quand la poche arrive, quand elle se forme, comment vous la prenez ?
Ben, on la prend parce qu'on a vu qu'il venait pas et qu'il s'arrêtait. Ben, alors, il y avait la radio, heureusement qu'il y avait des radios. Il n'y avait pas de télé, évidemment, il y avait la radio. Et maman était à l'écoute tous les jours de la radio, et mon père aussi. Et on apprend qu'il s'était formé une ligne de résistance.
Après le débarquement du 6 juin 1944, les troupes alliées libèrent petit à petit le territoire et font refluer les troupes allemandes vers ces forteresses, dont Saint-Nazaire. Le 4 août 1944, Rennes est libérée, et 8 jours plus tard, Nantes l'est également. Mais, comme le mentionne Ginette, les troupes alliées n'atteignent pas Saint-Nazaire. La forteresse nazérienne est férocement défendue par les Allemands, et les alliés se détournent vers d'autres priorités, c'est-à-dire libérer le reste du territoire et atteindre Berlin. La poche de Saint-Nazaire se forme alors. Elle est délimitée par la Vilaine et le canal de Nantes à Brest au nord, s'étendant jusqu'à Bouvron et Cordemais à l'est, et elle descend jusqu'à Pornic. Elle recouvre 1800 km², dans lesquels se retrouvent pris au piège 30 000 soldats allemands et près de 124 000 civils. Pour ces empocher, l'occupation dure 9 mois supplémentaires jusqu'à la fin de la guerre.
Et là, on dit, mais ils nous ont oubliés. Hein ? Quand on s'est aperçu qu'on était véritablement oubliés, volontairement, parce qu'il fallait mieux détourner les troupes pour monter sur le Rhin que de venir s'occuper de la poche de Royan ou de la poche de Saint-Nazaire, même de celle de Lorient. Et donc, on est resté là comme des ronds-flancs, hein, ben, en se demandant qu'est-ce qu'allait se passer. Manger ce qu'il fallait, parce que j'avais d'un côté le papa qui apportait, bon, tout ça, pas à chaque fois, hein, mais enfin quand il pouvait, il apportait quelque chose. Maman faisait quand même du vélo, la pauvre, pour aller au moins jusqu'à Saint-Lifard, essayer que dans cette région, essayer de trouver quand même un peu d'aliments, de légumes et des trucs qu'on ne trouvait plus sur place. Le pain, ben, on faisait comme tout le monde, on faisait la queue pour en avoir. Hein. On allait pêcher des berniques aussi, on faisait des berniques en ragoût. On mangeait des rutabagas aussi. Moi, j'étais un moment sans en manger après la guerre. Des topinambours, mais je me souviens pas très bien d'avoir eu ça dans l'assiette. Et du rutabaga sur la table, avec une bougie dedans, oui, et vidée, et avec une bougie à l'intérieur, pour avoir un peu d'éclairage.
Ginette mentionne ensuite l'hiver particulièrement rude de 1944-45. Dans le nord et le centre de la France, les températures chutent et la neige s'accumule.
On essaie pendant la poche, c'est en 44, ben alors. Mais vraiment, mais je vous assure, la bouquiche carrément. Hein. C'était très beau. L'eau était, la mer était gelée. Et j'avais été au bout de la jetée pour voir ce que ça donnait. Il y avait des glaçons pleins dans le port quand même, hein, qui baladaient. Et quand les vagues arrivaient, c'était magnifique avec le soleil, parce que quand elles se brisaient, ça faisait plein de cristaux. Au lieu d'être de l'écume, il y avait beaucoup de léger aussi. Hein. Il y a eu aussi une procession qui a fait traverser une partie de la France, d'ailleurs, je ne sais pas, qui s'appelle Notre-Dame de Boulogne.
L'événement auquel Ginette fait référence est une procession religieuse qui traverse la France de 1943 à 1948 afin de ramener 4 exemplaires d'une statue de Notre-Dame à Boulogne-sur-Mer. Arrivée autour de Nantes à la fin du mois de juin 1944, l'une de ces madones est prise dans la poche de Saint-Nazaire et est exfiltrée clandestinement par la Vilaine.
On a pris la procession au-delà de la Baule, et puis on est venu jusqu'au Pouliguen avec la procession. Ah oui, oui, ben, y avait un monde fou. Hein. Ben, il fallait bien s'accrocher à quelque chose. On priait pour la libération, pour que la guerre se termine. Quoi. C'était important, parce que, ben, je ne sais pas, les Allemands disaient rien, mais finalement, elle s'est faite cette procession sans que personne ne tire dessus.
Dans l'attente de la libération, la jeune Ginette, devenue apprentie coiffeuse, redécouvre sa passion pour le théâtre et le chant. Elle se joint à une troupe amateur de théâtre, créée pendant la poche avec des pouliganais et des réfugiés nazériens.
On était très occupés avec les répétitions, tout ça. On était très occupés avec nos théâtres, là. On a joué quand même des grandes pièces, hein, des pièces à l'époque qui étaient des pièces de boulevard, mais des pièces qui ont tenu l'affiche pendant je ne sais pas combien de temps. Mon curé chez les riches, c'était quelque chose. Hein. Bichon aussi. Et puis des petits concerts, alors des petits concerts aussi, il y avait des concerts avec des chanteurs, j'avais des copains qui chantaient très bien aussi, donc on faisait des concerts. Moi je chantais, je me faisais « Ça sent si bon la France, ça sent si bon la France ». Et là au premier rang, il y avait des officiers allemands qui étaient là, qui venaient au concert, oui. Et j'ai chanté des trucs comme ça. Ils ne disaient rien, ils ne disaient plus rien non plus. Vous savez, il y en avait... On n'avait pas des 16 dans le coin, je crois, c'est ça surtout. Hein. Donc on n'avait que des militaires qui avaient enfin hâte de rentrer chez eux. Moi, je vois ça comme ça. Ils n'avaient pas tellement envie d'aller au front à Bouvron, parce qu'il y a eu quand même quelques morts, justement, peu avant que la poche soit libérée.
Pendant la poche, Ginette et ses amis ont dans les 17 ans. À travers des moments volés, ils essayent de profiter d'une adolescence qui n'aura connu que la guerre.
Nous, on allait à la Guitoune. La Guitoune, oui. Mais tout ça, c'est des souvenirs de jeunes adolescents, avec des amourettes, avec des tas de trucs comme ça, des rigolades. Mais parce qu'on était jeunes, on avait envie de vivre, on attendait que ça se passe. Voilà. C'est un peu ce sentiment-là. On attendait que ça se passe. Bon, on attendait sans voir les difficultés, sans voir les problèmes. Et puis un beau jour, ben évidemment, un beau jour, c'est arrivé.
10 mois après le débarquement des Alliés en Normandie, un espoir de libération apparaît lorsque le sous-préfet de Saint-Nazaire rencontre le commandant de la forteresse allemande le 10 avril 1945. Cependant, celui-ci refuse toute idée de reddition. Il déclare
« Ma mission exige de moi que je tienne l'embouchure de la Loire jusqu'au dernier homme. Et avec mon dernier homme, disparaîtra aussi le port de Saint-Nazaire. »
Le suicide d'Hitler, puis la capitulation allemande sans condition, change la donne. La reddition allemande de la poche est signée à Cordemais le jour de l'armistice, le 8 mai. La poche ne sera officiellement libre que 3 jours plus tard, le 11 mai, devenant ainsi le dernier territoire libéré de France.
J'ai pas de souvenir. C'est vrai, je peux rien vous dire. Hein. On a sauté de joie, sûrement, on a sauté de joie. Et puis on devait être dans les préparatifs, au moment, faire des bouquets de fleurs et tout, pour le mettre dans le panier. parce que ça va enfin arriver. Hein. Donc j'étais avec elle à préparer tout ça, et puis avec des amis, on devait être en train de préparer tout ça. Mais je n'ai pas de souvenir. Là, il n'y a pas d'image. Après, il y a les flashs de l'américain, les flashs avec les photos, là, bien sûr. Mais les gens qui sautaient de joie et tout, bien sûr. Hein, la libération totale. Oui, ça, c'est sûr. Mais encore que c'était très timide. Très timide, parce que la photo dans la rue du Pont, là, et de M. Vaugueuil, il défile encore dans la rue du Pont, qui est la rue Leclerc maintenant. Et puis... Et puis, ben, il n'y a personne, il y a des gens qui font leurs courses, c'est normal, la vie normale. Oui, rue du Croisic, oui, c'est beaucoup plus serré. Il y a davantage de monde de sortie. Est-ce que les gens avaient peur de sortir de chez eux? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne vois pas une foule comme on a vu les photos et les films sur Paris, où là, vraiment, c'est l'arrivée de la libération totale. Ça ne peut pas être comme ça, parce qu'il y a eu cette cassure, là. Alors on est content, bien sûr, c'est fini, mais c'est fini pour tout le monde, alors c'est plus pareil non plus. Là-bas, à Paris, c'est pas fini pour tout le monde, ça continue. Mais nous, c'est archi fini même.
La photo à laquelle Ginette fait référence a été prise par Édouard Bourgueil, photographe et propriétaire du tabac du port du Pouliguen, le jour de la libération de la poche, le 11 mai 1945. Elle est conservée dans les collections de l'écomusée de Saint-Nazaire. Sur la photo, Ginette, alors âgée de 17 ans, pose avec un soldat américain tout sourire. Elle tient à son bras gauche un panier tressé rempli de bouquets de roses. Elle porte une robe blanche à motif, fermée par une broche fleurie et est coiffée d'un bonnet phrygien décoré d'une cocarde tricolore.
La mairie est venue me chercher pour que j'aille danser un soir à une maison qui était dans l'avenue de Paris, là, qui était occupée par les Allemands et qui était reprise par les Américains. Et il y avait un bal d'organiser le soir avec des officiers. Donc on est venu chercher 5 ou 6 jeunes filles du Pouliguen et d'autres de la Baule. Et moi, je me trouvais avec et on est allé danser. C'était la grande vogue du comment... C'est ça, le rock'n'roll autour de moi. Ben, ils amenaient toute leur musique avec eux. Hein. Et moi, j'adorais. Oh là là là, alors, quand ils ont été là, justement, on allait au grand café qui était sur le port. Et ça m'est arrivé de chanter aussi, là. Mais avec les Américains, oui, là, je suis montée, il y avait l'orchestre américain. Alors là, c'était chouette. C'est vrai que, en fin de compte, je me dis que j'ai traversé cette guerre horrible et tout ce que je découvre des fois maintenant. Hein, ben, les camps de concentration, tout ça, évidemment, on a découvert ça après, c'était atroce, évidemment. Alors évidemment, moi quand je vois ça, ou quand j'en vois des trucs comme ça, je me dis, mais bon sang, mais moi j'ai traversé ça. Les guerres, ça vous fout tout par terre, c'est un autre dessin. C'est un autre dessin.
Le serveur, allez donc chez
vous. Ah oui, on a soif.
Vous voulez du jus de fruits?
Nous espérons que le podcast que vous venez d'écouter vous a plu. Cet épisode est le fruit d'entretiens que nous avons menés avec Ginette en juin 2025.
Nous tenons à la remercier chaleureusement pour la confiance qu'elle nous a accordée en nous livrant son histoire personnelle d'une adolescente pendant la guerre et la poche de Saint-Nazaire.